France Musique.
Alors moi, il m'épate.
Mazette, quelle musique! Jean-Yves Larouturou, France Musique, c'est l'été.
Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme. Il y a autre chose.
Bonjour à toutes et tous, heureux de vous retrouver. Je me dois d'abord d'admettre devant vous que notre série estivale Mazette, quelle musique, suscite quelques sévères critiques. Certains se sont dit outrés par notre émission sur la guerre amoureuse, qu'ils ont trouvée dangereuse pour la jeunesse, totalement incompatible avec les bonnes mœurs. L'émission sur le chaos et les clusters a fait ressurgir la rumeur selon laquelle Mazette, quelle musique serait en réalité une émission cryptopolitique et d'aucuns y ont vu une entreprise de démoralisation du public. Enfin, notre grand jeu radiophonique, original ou produit dérivé, a été jugé déplacé, voire inconvenant sur une radio de service public à haute visée intellectuelle et culturelle, qui plus est financée par la redevance. Bon. Pour excessive qu'elle fût, ces critiques devaient être entendues. Et donc après réflexion, consultation, nous avons choisi pour cette 7e émission aujourd'hui un thème léger, souriant, mais pas trop, un thème susceptible, nous semble-t-il, enfin en tout cas nous l'espérons, de contribuer à la concorde nationale, un thème que dans le contexte difficile du temps présent, je n'hésiterai pas à qualifier de transgénérationnel et de multipartisan, les cloches. Pour ouvrir cette émission, le final de L'amour sorcier de Manuel de Falla, Las campanas del amanecer, les cloches du lever du jour, et pour que s'évanouissent définitivement tous les sortilèges nocturnes, sorcellerie, gitanerie, danse rituelle du feu, de splendides et revigorants effets de cloches. Qu'est-ce qu'une cloche? Je parle d'un instrument, bien sûr. Une cloche est un idiophone, c'est-à-dire un instrument autorésonnant. Une fois l'instrument frappé ou frotté, le son émis s'entretient lui-même pour une certaine durée. Cette durée dépend des caractéristiques physiques de l'instrument, la taille, la forme, la matière. En effet, l'instrument peut être en bronze ou dans d'autres métaux, mais aussi en terre cuite, en porcelaine, en verre, en plastique, en bois, comme les cimandres de hêtre et de tilleul des monastères orthodoxes du Mont Athos ou des Météores, ou encore en pierre, comme les lithos d'Afrique ou d'Asie du Sud-Est, des pierres volcaniques à forte résonance. Nous parlons des cloches et nous englobons naturellement tout ce qui produit des sons que nos oreilles assimilent au son d'une cloche ou d'un ensemble de cloches, c'est-à-dire d'un carillon. Donc ce sont également les clochettes, les grelots, les cloches plaques ou les cloches en forme de tube de l'orchestre symphonique, les cloches de troupeau, clarines et sonailles, et puis toutes les percussions qui émettent un son résonnant à hauteur déterminée, crotale, métallophone, xylophone, balafon, etc. Voilà. Peut-être avez-vous, comme moi, le sentiment qu'ainsi, nous avons fait le tour du problème et que nous allons pouvoir nous épargner encore trois bons quarts d'heure d'écoute forcée et débilitante de cloches et de carillons. Bon, et pourtant, quelle musique que celle des cloches ou des instruments qui imitent le son de la cloche, sa résonance, son aura. Que de musique saisissante, notamment au cours des 150 dernières années. 150 années, pourquoi ? Parce que c'est effectivement au début des années 1870, à Saint-Pétersbourg, pour être tout à fait précis, que s'opère un tournant fondamental dans la façon d'introduire dans la musique, de reproduire, d'imiter les caractéristiques essentielles des sonneries de cloche, tournant qui va inspirer des œuvres musicales de plus en plus nombreuses et diverses, encore jusqu'à aujourd'hui. Alors certes, on n'a pas attendu les années 1870 pour mettre la cloche en musique, ainsi Mozart avec l'aide de Papageno en 1791. Un glockenspiel, c'est-à-dire en l'occurrence un carillon de clochette, ici dans la flûte enchantée. La cloche est un des plus vieux instruments sonores dans toutes les civilisations, un instrument plusieurs fois millénaire. Au Moyen-Âge, par exemple, les cloches seules ou rassemblées en carillon, et puis leurs sonneurs également, apparaissent dans les marges des parchemins ou dans la pierre des tympans et des chapiteaux. La cloche marque les heures, les moments essentiels du temps profane ou sacré. Elle appelle clercs et laïcs aux offices, aux rassemblements civils ou militaires. Elle annonce la mort, c'est le glas, où le danger, c'est le tocsin. La cloche, le carillon sont aussi présents dans les ensembles de musique, savantes ou populaires, religieuses ou non. Mais comme pour tout l'instrumentarium de la musique médiévale, d'ailleurs, les hypothèses sont plus nombreuses que les certitudes. C'est encore un champ de recherche et surtout, c'est, de mon point de vue, un des charmes de cette musique. Je trouve que, selon le choix des instruments faits par les interprètes, et ces choix sont souvent complètement ouverts, la même partition aboutit à des interprétations parfois très différentes et très étonnantes. Deux exemples de cloches médiévales. La première, dans l'Italie des Visconti, au passage du Trecento au Quattrocento, vers 1400 donc, on voit apparaître alors des œuvres religieuses qui sont des parodies de chansons profanes connues, et ainsi la ballade très mélismatique de Zaccaro, Rosetta che non cambi mai colore, petite rose qui ne change jamais de couleur, cette ballade célèbre devient, sous la plume de l'autre grand compositeur milanais de l'époque, Matteo da Perugia, un Gloria, et ce sont les cloches qui énoncent la mélodie et ponctuent son développement. Bons siècles auparavant, l'école Notre-Dame, en 1163, commence la construction de la nouvelle cathédrale de Paris à la place de la cathédrale romane et puis des ruines de l'ancienne cathédrale carolingienne. À cette époque, c'est l'audace qui prévaut en architecture, mais aussi en musique. L'école Notre-Dame est chargée d'écrire une musique nouvelle pour les nouvelles voûtes gothiques, musique dont le rayonnement musical va s'étendre sur toute l'Europe. La première génération de cette école Notre-Dame est dominée par Maître Léonin, Léoninus, Petit Léon. Et Petit Léon, ça n'est pas rien, est dans notre histoire musicale le premier compositeur nommé, connu, identifié lui-même et ses œuvres de manière incontestable. Nous allons écouter un organum à deux voix, Viderunt Omnes, écrit par Léonin, l'inventeur de cette forme musicale. Alors comment ça marche un organum à deux voix? C'est assez simple. La voix principale, celle qui tient le chant, la teneur, le ténor donc, chante une mélodie grégorienne aux notes très longues, parfois jusqu'à 15 ou 20 secondes sur une seule syllabe. Viderunt, etc. La seconde voix, la voix organale, chante au-dessus de la teneur sur une mélodie indépendante, en valeur courte, mélodie très fleurie, très ornementée, avec un rythme complexe. Et puis les deux voix se retrouvent à la fin des syllabes, et surtout pour un accord marqué à la fin de chaque mot. Écoutons le début de ce Viderunt Omnes pour la fête de Noël. Viderunt Omnes Finisterrae, tous les confins, tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Et pour ponctuer cet organum, lui donner le scintillement festif requis, une cloche et même un carillon. Tintinabulum, comme disaient alors les chanoines de la cathédrale. Ce tintinabulement médiéval est au cœur de l'inspiration d'un compositeur d'aujourd'hui, Arvo Pärt, compositeur estonien à la réputation établie. Depuis le milieu des années 70, il écrit une musique tintinabuliste et minimaliste qui rencontre un très grand succès avec des œuvres comme Fratres, Tabula Rasa ou encore le Cantus in Memoriam Benjamin Britten de 1977 pour cordes et cloches. C'était le tout début du Cantus in Memoriam Benjamin Britten d'Arvo Pärt. Nombreux sont ceux qui aiment beaucoup cette musique et la révèrent. Nombreux aussi ceux qui ne l'aiment pas beaucoup et même certains ne la supportent pas du tout. Très bien, ne nous fâchons pas, restons courtois, réconcilions tout le monde en considérant par exemple que Benjamin Britten et sa musique sont toujours vivants, vraiment vivants, avec toutes les cloches nécessaires. Sunday morning, dimanche matin, c'est le début du deuxième acte de l'opéra Peter Grimes de Britten. Un rythme bien syncopé, les quatre corps et les cordes graves imitent magnifiquement des cloches avant même l'arrivée des vraies cloches. musique enthousiasmante, non ? Est-ce que ça vous a rappelé quelque chose ? Une musique fameuse, une scène d'opéra mythique créée toute seule sans le reste de l'opéra en 1872 à Saint-Pétersbourg. Vous voyez, on arrive aux années 70 que j'évoquais tout à l'heure, 1870. Vous ne voyez pas encore ? Un déferlement de cloches, les vrais et plus vrais que vrais, les imitations par tout l'orchestre et le chœur. Une musique vertigineuse d'une puissance dramatique inouïe. Toujours pas. La scène se déroule sur la place des cathédrales à Moscou. Non, un dernier indice, cette musique a été utilisée pour la publicité d'un dentifrice permettant, paraît-il, d'avoir des gencives en béton, drôle d'argument d'ailleurs. Et oui, c'est la scène du couronnement du tsar, quasiment par le peuple lui-même, dans l'opéra Boris Godounov du grand Modeste Petrovitch Moussorski.
Thank you.
scène du couronnement de Boris Godounov, pas de commentaire nécessaire, je crois, mais pour reprendre notre respiration, un autre couronnement avec cloche, bien sûr, c'est le piano qui se charge d'imiter les cloches cette fois-ci.
Couronnement de Babar.
Merci Francis Poulenc, Éric Lesage au piano et aux cloches, et notre Frédéric Lodéon comme récitant. Revenons aux années 1870 et après la scène du couronnement de Boris, une deuxième œuvre fondamentale pour notre affaire de cloche, le final des tableaux d'une exposition du même Moussorgski. Après la mort soudaine de Victor Hartmann, architecte et peintre, ami de Moussorgski, une grande exposition de ses œuvres est montée à Saint-Pétersbourg en 1874. Moussorgski est pris d'une fièvre créatrice, il la compare lui-même à celle du temps de la composition de Boris Godounov, et en moins de 2 mois, il écrit pour le piano ses fameux tableaux d'une exposition. Il ne s'agit pas tant d'une description pittoresque de quelques tableaux, c'est Moussorgski lui-même que nous accompagnons dans sa promenade dans l'exposition. C'est ce sentiment d'amitié profonde, c'est l'émotion artistique, inaltérable tous les deux, malgré la mort, que nous ressentons. Et avec toute la puissance du compositeur de Boris Godounov, cette émotion restituée prend une valeur universelle. Le final de l'œuvre, la Grande Porte de Kiev, est inspiré par une esquisse de Hartmann pour un concours d'architecture en vue d'édification d'une porte monumentale à Kiev. Le concours fut annulé, l'esquisse est restée une esquisse, peu importe. Avec ce final extraordinaire, Moussorgski édifie un vrai monument au rayonnement inextinguible. Nous allons écouter la partie centrale de ce final, là où surgissent les cloches en mineur puis en majeur, la grosse cloche au battement relativement lent, puis des cloches de plus en plus nombreuses, aiguës, rapides, on passe des noirs aux croches, puis une déferlante, un tintamarre de cloches qui couvre tout le spectre sonore avant une descente vertigineuse en double croche sur plus de 6 octaves, le tout en faisant entendre le thème de la promenade. La promenade, c'est l'intermède musical entre les tableaux, le thème par lequel l'œuvre a commencé et par lequel elle va s'achever. Et tout cela avec 10 doigts et rien de plus. Rien de plus, sauf si pour ce chef-d'œuvre, on mobilise tout un orchestre. Et c'est évidemment ce qu'ont fait de nombreux orchestrateurs. Nous allons donc écouter ce passage du final dans 3 orchestrations différentes, 1922, 1971 et 1982. 3 façons de traiter ces cloches qui ne sont que des touches blanches ou noires du piano dans la partition originale. La première orchestration, à juste titre la plus connue, la plus jouée, est celle de Maurice Ravel, brillant orchestrateur s'il en fut. La deuxième orchestration maintenant, elle date donc de 1971.
Thank you.
Emerson, Lake & Palmer, peut-être le plus populaire dans les années 70 parmi les groupes britanniques plus ou moins psychédéliques de prog rock, du rock progressif. Certains y verront la confirmation que décidément la notion de progrès est relative, et puis d'autres considéreront que la vie n'était sans doute pas si facile que ça dans les années 70. Troisième orchestration, brillante, si j'ose dire très très forte en cloche, celle du pianiste et chef d'orchestre Vladimir Ashkenazy en 1982. Mazette, quel tintamarre magnifique! Et maintenant, les cloches d'origine sous les 10 doigts du grand Sviatoslav Richter, enregistrées en concert sur le vif, la version originale pour piano de Modest Petrovitch Moussorski. Malgré les rutilances du rock progressif, malgré Ashkenazy, malgré Ravel même, on peut, je crois, considérer que les cloches pianistiques de l'original, au piano seul donc, sont encore plus saisissantes, encore plus des cloches inoubliables.
Mazette, quelle musique ! Jean-Yves Larouturou, France Musique, c'est l'été.
Petit festival avec quatre extraits de très belles œuvres pianistico-campanaires, post-Moussorski. Percy Grainger d'abord, en 1931, ce compositeur australien enregistre Blithe Bells, qui veut dire quelque chose comme cloche allègre ou cloche insouciante, un travestissement à l'harmonie décalée on ne peut plus savoureuse, de l'air de Pallès dans la cantate de la chasse de Bach. Pallès, c'est la déesse des troupeaux, elle chante la quiétude des brebis en train de paître, et apparemment Percy Grainger s'est renseigné, plus que Bach, ces brebis avaient des cloches très sonores autour du cou. Maintenant, avec quatre mains très virtuoses, un puissant carillon aux accents éclatants, le début de Pâques, dernière pièce de la première suite pour deux pianos du jeune Rachmaninov. quelle puissance dans le carillonnement! Changement radical d'ambiance, mais aussi dans la façon pianistique, avec la Vallée des cloches, cinquième et dernière pièce des Miroirs de Maurice Ravel, une évocation des sons et des échos de cloches à travers une utilisation on ne peut plus subtile, ravelienne, des harmonies sonores. Transparent, voluptueux et sublime des cloches comme on les rêve. À présent, pour finir ce petit festival pianistico campanaire, le début de Ame no Kisobiu, c'est-à-dire Esquisse pour l'arbre à pluie de Toru Takemitsu, un langage très personnel avec des réminiscences stylistiques de Messiaen, dont il fut le disciple, de Ravel, de John Cage, et puis de la musique de Gagaku, bien sûr, des cloches japonaises à la beauté universelle. Maintenant, toujours un piano sans vraie cloche, mais accompagné d'un trio à cordes. C'est le deuxième quatuor avec piano de Bohuslav Martinu, créé dans l'exil à New York en 1942. Dans l'allegro poco moderato conclusif, le piano impose son phrasé en faisant entendre des accords comme des cloches, souveraines, paisibles, assurées, avec ce mélange inimitable de free jazz et de vraies fausses hymnes orthodoxes très typiques des œuvres de Martinu dans ces années-là. Piano bien entouré, des slaves encore et des cloches plus vraies que vraies. Passons du quatuor avec piano au piano entouré à présent par tout un orchestre symphonique. 40 ans après le couronnement de Boris et après la grande porte de Kiev, le jeune Prokofiev, 20 ans à peine, compose l'introduction Allegro Brioso de son premier concerto pour piano. Après trois accords forte qui installent la tonalité, ré bémol majeur, toute cette introduction est basée sur un carillon fortissimo de quatre notes, sol, la bémol, sol bémol, fa, pam, pim, pam, pam, asséné, transposé, répété jusqu'à l'ivresse avec des effets campanaires de l'orchestre comme du soliste. Toujours pas de vraie cloche en vue, mais quel carillon enivrant! Mazette, quelle musique! Allez, ne soyons pas trop sectaires, il n'y en a pas que pour le piano. Dans l'esprit de concorde qui est le nôtre aujourd'hui, écoutons piano et cloches ensemble. Dans ce que certains considèrent comme les plus belles cloches de la musique occidentale, oui, les cloches de la fin de Nos de Stravinsky. Nos, c'est une des partitions les plus exubérantes et profondes de Stravinsky, écrite en 1922 sur un texte assez déjanté, il faut le dire, de Ramuse. Depuis le tout début de l'œuvre jusqu'à ses dernières mesures, le son de la cloche, rituel, mystique, est un son qui est élargi à tous les instruments, percussions, piano et même aux chanteurs solistes et au chœur. Le quatrième et dernier tableau est le banquet rituel de mariage avec l'ivresse tout aussi rituelle, la consommation du mariage et enfin, après que les voix se soient tues, les cloches, presque un glas, cloche de la vie ou de la mort et de la mort de quoi et de qui on ne sait pas. Mais laissons ça de côté, vous avez noté d'ailleurs aujourd'hui que nous évitons d'aborder le côté obscur de la cloche. Donc des sons de cloche avec une vraie cloche, deux crotales, les petites cymbales antiques et quatre pianos et donc quatre pianistes. Homero Frances, Cyprien Katsaris, Christian Zimmermann, Martha Argerich, les deux percussionnistes de l'English Bach Festival Orchestra et Leonard Bernstein, comme on dit à Bréchamp-sur-Maltorne. Et les voix, oui, allez, foin du piano, les voix bien sûr, rien de plus simple pour imiter des cloches, bim bam boum. Démonstration aisée avec ce sublime Carol of the Bells de Mykola Leontovitch, encore un slave. Deux ensembles vocaux contemporains d'Amérique du Nord, tentons l'aventure.
Hark on the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away, Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold, ding dong ding dong, that is the song, with joy for ring, all caroling, one seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air, oh, how they pound, raising the sound, tell a hill and dell, telling the tale, playing in the rain, while people sing songs of good cheer, Christmas is here, ding, ding, merry, 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 merry Christmas, merry, 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 merry Christmas.
Merci beaucoup. C'était l'ensemble vocal Salut Salon. Seconde tentative, courage, on m'indique que ça dure moins de 70 secondes.
Mi, 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 mi,
Je n'en reviens pas, on me dit que c'était le Muppet Show. Passons, changeons de sujet. Les cloches à l'opéra, pourquoi pas? Allez, sujet difficile pour deux raisons. La première, c'est que les cloches n'interviennent trop souvent que de manière superficielle, extérieure à la dramaturgie musicale. Dans la plupart des opéras, les cloches ne sont là simplement que pour crédibiliser soit le lieu, on est dans un monastère ou à proximité d'une église ou d'un beffroi, donc on entend forcément un carillon. Soit l'heure, il est midi, il est minuit, on entend forcément 12 coups de cloche. Soit les circonstances, le convoi funèbre s'avance, ça justifie le glas. De cortège triomphal ou matrimonial traverse la grande place, ça rappelle un joyeux carillon. Rien de très enthousiasmant. La deuxième raison, c'est qu'en arrivant dans une salle d'opéra ou en se mettant à l'écoute d'un enregistrement, qu'il soit réalisé sur le vif ou en studio, on sait rarement à quoi s'attendre et quel est le son que l'on va entendre. Deux exemples avec de très courts extraits. D'abord, chez Verdi, le début de la scène du Miserere du Trouvert, avec cloche obligée en premier plan ou avec cloche très lointaine, à vous de choisir. Je vous dis quand même que, avant l'écoute, que Leonora sera d'abord l'insurpassée Rosa Poncel en 1928, et puis après nous entendrons l'impressionnante Leontine Price en 1970. Même exercice avec un extrait du troisième acte de Parsifal de Wagner. Les cloches de Mont-Salvage retentissent, Gournemanc s'adressant à Parsifal chante midi, mittag, l'heure est venue, permets Seigneur que ton serviteur te conduise. Sur la partition figurent deux portées pour les cloches, il est indiqué aussi qu'elles doivent être sur le théâtre pour jouer le thème, le leitmotiv de la cloche. Deux questions se posent. Quel instrument faut-il utiliser? À la création à Bayreuth en 1882, on utilise une machine construite pour l'occasion, le Wagner Klavier, monstrueux instrument à cordes à quatre touches, mais dont le son doit être amplifié par cinq gongs et un tuba. Ailleurs, on utilisera simplement des cloches tubulaires. Deuxième question, quel dosage? Qu'est-ce qu'on doit entendre? Quatre fois le même extrait, très bref, enregistré sur le vif, et vous allez vous en rendre compte, quatre réponses bien différentes. À la Scala de Milan en 1960.
Ich
au festival de Bayreuth en 62. Au Covent Garden à Londres en 71. Et enfin à la Staatsoper, l'Opéra de Vienne, en 2006. Des cloches au premier plan, aux cloches à peine audibles ou même inaudibles, qu'est-ce que voulait Wagner ? Une certaine perplexité donc. Bon, tout ça ne résume pas les musiques de cloches à l'opéra, et ça ne suffira pas à nous faire oublier, par exemple, l'enchantement du début du troisième acte de Tosca de Giacomo Puccini. Puccini est allé lui-même sur la terrasse du château Saint-Ange pour noter les timbres des cloches des églises de Rome et leur étagement à l'heure qui précède l'aube. Il pourrait en résulter une pièce de pur pittoresque, couleur locale, mais sous les cloches de Rome, l'orchestre déroule une longue phrase magnifique qui reprend par bribes les thèmes déjà entendus dans les deux premiers actes, la rencontre, l'amour, également l'accord qui est la signature de l'ignoble Scarpia, etc., etc. C'est donc une aubade poignante et le réveil des cloches de Rome rend le spectateur, l'auditeur, encore plus sensible à l'imminence de la tragédie finale.
Thank you.
Autre exemple qui va nous amener à flirter dangereusement avec le côté obscur de la cloche. Attention, retenez-moi, c'est la scène inaugurale de L'Inondation, opéra de Francesco Filidei, créé en octobre 2019. Après une grande inondation, une femme, un homme, un couple sans enfants retrouvent son appartement avec la jeune fille orpheline qu'ils ont recueillie il y a quelque temps et qui a séduit l'homme. Seule avec elle, la femme hésite, puis elle étrangle la jeune fille. Les cloches n'ont plus rien d'anecdotique, d'emphatique ou de pittoresque. Cloches et percussions résonantes révèlent l'être intérieur de la femme, en train d'hésiter, puis de se résoudre au meurtre et de l'accomplir dans un impressionnant tintamarre de cloches de diverses natures. Nous écoutons cette scène aux cloches saisissantes, le meurtre de la jeune fille. Nous parvenons à la fin de l'émission en étant conscients d'avoir juste effleuré, si j'ose dire, ce beau sujet et d'avoir négligé beaucoup de choses. Pour terminer, une œuvre magnifique de Jonathan Harvey, compositeur britannique à l'inspiration multiforme, bouillonnante. Beaucoup de centres d'intérêt chez Harvey, mais notamment il était passionné par le traitement informatique des sons. Il en a résulté notamment l'œuvre dont nous allons écouter le début, Mortuos Piango Vivos Voco, Je pleure les morts, j'appelle les vivants, peut-être assez adapté au 15 août d'ailleurs, l'air de rien. Dans Mortuos Piango Vivos Voco, les sons traités par un ordinateur sont ceux de la grande cloche de la cathédrale de Winchester et ceux de la voix du jeune fils d'Harvey, choriste dans la maîtrise de la même cathédrale. La décomposition et la recomposition du spectre harmonique de la cloche et de la voix de l'enfant, dans le temps et dans l'espace, crée une musique jubilatoire, je trouve. Et grâce au traitement électronique, les sons de cloche et les voix enfantines se répondent, se confondent, se fondent dans un tourbillon subtil ou très puissant, mais toujours exaltant. Un vrai chef-d'œuvre emblématique de l'avant-garde des années 70 et 80, OK Boomer.
Mortuos, 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 mort
une fastueuse déstructuration cosmique de la cloche et de la voix. Voilà ce qu'il nous fallait pour clore cette émission plus vraie que vraie des carillons et des cloches. Nous nous retrouvons samedi prochain, même lieu, même heure, pour la 8e et dernière émission de cette série estivale. Le thème, soufflé par Guillaume de Machaut lui-même, s'imposait « Ma fin et mon commencement ». Pas de contrepèterie évidente, me disent les experts, mais le renversement est possible. Mon commencement et ma fin, nous verrons bien. Commençons donc à y réfléchir. Toutes les références musicales, la réécoute, le podcast de l'émission d'aujourd'hui et de toutes celles qui l'ont précédée sont sur la page Mazette, quelle musique, sur le site de France Musique. Merci à la fine équipe sans laquelle rien ne serait possible. Thomas Jost à la réalisation, bien sûr, pour la technique Julien Calvas et Flora Sternadel pour le site. Très bonne semaine sur France Musique et dans deux petites minutes, été classique.
À réécouter sur francemusique.fr.